Alors, Agnès est peut-être moins connue de vous. Ça viendra, hein. Elle a encore des heures de gloire devant elle. Voilà. Que puis-je dire que tu commences à enseigner au Centre Sèvres après avoir soutenu ton doctorat. Voilà. Et que là, tu vas nous parler de l'Église. Le titre est exact. Et l'Église des pauvres, selon Joseph Rezaski.
L'idée ici, c'est un peu de... Voilà. De réfléchir, vous m'entendez? C'est bon. À l'identité missionnaire de l'Église comme une identité dynamique, de sortie, comme dirait le pape François, à partir des plus pauvres. Et en fait, en me penchant sur les textes de Joseph Rezaski, j'ai été frappée par la récurrence de la référence chez le père Joseph au thème de l'évangélisation des pauvres. J'en ai trouvé une vingtaine d'occurrences, parfois explicites, au fondement biblique, et parfois, comme disait Laure, de manière non explicite. Le fondement biblique, vous le connaissez sans doute, il s'agit de la prophétie d'Isaïe et sa reprise par Jésus, qui en dit l'accomplissement en sa personne, à la synagogue de Nazareth, et également dans un épisode peut-être un peu moins connu, en réponse à la demande des envoyés de Jean-Baptiste, « Es-tu celui qui doit venir ?» Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de m'apercevoir que quand le père Joseph se référait à ce thème de l'évangélisation des pauvres, il le faisait en lien avec une expression, l'expression « Église des pauvres », dont on a déjà entendu parler par Alain ce matin, hein, qui a été pour la première fois formulée par le pape Jean XXIII et qui a connu un ample déploiement, nous le verrons, durant le Concile Vatican II. Pourquoi m'intéresser à cette référence? Tout d'abord, nous avons vu aussi ce matin, à travers l'exposé d'Alain, l'importance du thème de l'évangélisation des pauvres dans la définition de l'option préférentielle pour les pauvres. En particulier, le document de Puebla de 1979 fonde l'option préférentielle pour les pauvres sur l'exemple du Christ qui évangélisait les pauvres. Et plus, le document indique encore que le premier service que l'Église doit remplir à l'égard des pauvres est celui de l'évangélisation. Et ce qui me semble intéressant de noter, c'est un peu aussi un des motifs pour lequel je me suis intéressée à ce thème chez le père Joseph, c'est que cette question, la centralité de l'évangélisation des pauvres dans la manière de poser l'option préférentielle pour les pauvres, on la retrouve dans tout le courant de la théologie argentine du peuple dans lequel s'inspire le pape François. Donc ça me semblait un rapprochement intéressant entre le père Joseph et ce qu'on entend actuellement du pape François. Mais alors, comment poser cette évangélisation des pauvres? Et je me suis basée sur une expression utilisée par Gustavo Gutiérrez dans La force historique des pauvres, où il parle d'un circuit évangélisateur par lequel, en apportant la bonne nouvelle aux pauvres, on se trouve soi-même évangélisé par eux. Et ça me semble assez éclairant aussi pour examiner le lien entre évangélisation des pauvres et Église des pauvres. Dans la perspective de la théologie de la libération comme celle de Joseph Rezaski, la mission qu'a l'Église d'évangéliser les pauvres trouve sa source, son origine dans la manière dont Jésus lui-même a exercé sa mission d'annonce de la bonne nouvelle en s'adressant de manière prioritaire aux pauvres. Et je cherchais à éclairer ici, à la lumière du père Joseph, comment l'Église est et se construit comme une Église des pauvres au travers de ce circuit évangélisateur qui nous entraîne tous dans une dynamique de conversion. Et pour cela, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais éclairer ce qu'est pour le père Joseph l'Église des pauvres en regard du thème de l'évangélisation des pauvres. Ensuite, je réfléchirai comment il va poser ce court-circuit évangélisateur. Et je vais l'expliciter en termes de contagion de l'amour, une expression utilisée par le père Joseph. Et enfin, j'esquisserai quelques éléments de rapprochement entre la pensée du père Joseph et celle du pape François, en particulier qu'on trouve dans la joie de l'Évangile. Donc mon premier point, la prophétie de l'Église des pauvres à Vatican II. Pourquoi ce titre? En fait, le père Joseph fait de la proclamation d'une Église des pauvres le message central du Concile Vatican II. Et pour lui, l'acte le plus significatif du concile, c'est le message que le pape Jean XXIII a prononcé un mois avant le concile, où il dit « L'Église se présente telle qu'elle est et qu'est-ce qu'elle veut être, comme l'Église de tous et particulièrement l'Église des pauvres. » Et on a parlé ensuite de la postérité de cette expression au concile, en particulier avec le pacte des catacombes, et moi j'insisterai sur une autre postérité, celle du groupe de l'Église des pauvres autour du cardinal Giacomo Lercaro, l'archevêque de Bologne, qui dans un important discours au concile sur le thème de l'Église des pauvres, va dire que l'évangélisation des pauvres devait être le centre et l'âme du travail doctrinal et législatif du concile. Donc c'est dans cette ligne, me semble-t-il, que Joseph Wresinski va penser l'évangélisation des pauvres, et on comprend pourquoi il y a ce lien entre évangélisation des pauvres et Église des pauvres. Et le père Joseph va identifier la proclamation par Jean XXIII de l'Église des pauvres, un rappel de la prophétie « Les pauvres seront évangélisés ». Et cette prophétie est aux yeux du père Joseph nouvelle dans la formulation qui est proposée par le pape Jean XXIII. Et il dit « Cette nouveauté tient, je cite, dans la manière dont le pape Jean XXIII en fit un présupposé, une condition, comme la pierre de touche de la fiabilité de l'Église. Le pape proclamait que la mesure de la réussite même du Concile, comme de l'Église de demain, était la prise de conscience de cette réalité. » Et ce qui me semble intéressant, c'est aussi c'est à travers ce prisme qu'il va faire une relecture de son propre itinéraire, jusqu'au concile, et on va voir que ça procède en différentes étapes, cette prise de conscience de l'importance de l'Église des pauvres et de l'évangélisation des pauvres. Il va tout d'abord dire qu'en fait la conscience que l'Église était l'Église des pauvres a germé en lui dès son enfance, au contact de son curé, de religieuses qui respectent sa mère, et ça me semble faire écho à ce qu'on a vu ce matin de la honte, et en particulier en lien avec son père. Là on a un modèle de sa mère, sur lequel il revient souvent à propos de l'Église des pauvres. L'exemple de sa mère dont la prière et la confiance en Dieu l'édifient. Et ça va lui faire dire, pour l'enfant pauvre que j'étais, l'Église des pauvres existait bien avant Vatican II. Et par contre, quand il relit son itinéraire personnel, il va dire que la découverte de la priorité de l'évangélisation des plus pauvres est beaucoup plus tardive. Va s'affirmer en grandissant, en particulier au contact de la jeunesse ouvrière chrétienne. Il va dire ainsi, vers l'évangile parole de pauvres, l'évangile pour les pauvres, je fus conduit plus progressivement. Et finalement, l'évangélisation des pauvres apparaît comme la matrice de sa vocation sacerdotale. Il dit, nous voulions évangéliser les pauvres comme le Christ nous l'ordonnait, et en même temps assumer ce que le Christ avait déjà accompli. Les pauvres sont évangélisés. Nous croyons, et je le crois toujours, que l'évangélisation des pauvres était déjà réalisée. Ce qui me semble intéressant dans ce passage et dans d'autres passages, c'est qu'on voit une tension entre un déjà là et un pas encore de l'évangélisation des pauvres, qui est aussi une tension entre le déjà là et pas encore de l'Église des pauvres elle-même et de la libération. On le voit en particulier sur le fait que parfois il parle de « les pauvres seront évangélisés », d'autres fois il dit « les pauvres seront évangélisés ». Et ce qui me semble assez significatif aussi, c'est que là, il va se positionner en particulier par rapport à la théologie de la libération de type marxiste, où il va dire ben, « le marxisme ne permet pas de voir cet au-delà qui s'ouvre à la vie présente ». Et justement, cette tension-là est propre au christianisme, et c'est ça qui va pouvoir nous donner cette dynamique de libération. Il va dire « l'Église est par essence les plus pauvres, mais parfois il reconnaît qu'elle se montre infidèle à sa vocation ». Mais il va considérer de fait de cette tension qu'elle est condamnée à travers son histoire à se rappeler, à reprendre conscience de cette réalité qu'elle est pauvreté, mépris, exclusion. Et donc la prophétie de l'Église des pauvres exprimée à Vatican II représente un appel à redécouvrir cette vocation première de l'Église, à redécouvrir ce qu'elle est par nature et où elle est parfois infidèle. Donc l'Église des pauvres, c'est l'Église où les pauvres sont tout à la fois les premiers évangélisés et les premiers évangélisateurs. Du coup, ça va nous amener à examiner le deuxième point, le circuit évangélisateur, une contagion de l'amour. Donc c'est ma manière de réexprimer ce circuit évangélisateur à partir de la pensée du Père Joseph. Pour le Père Joseph, bâtir l'Église des pauvres, c'est placer les pauvres au centre, à la base même de l'Église, comme il dit. Et pourquoi cela? Parce que c'est leur présence même qui donne vie à l'Église. Il va utiliser une belle image qui est celle de l'artère. Les plus pauvres sont l'artère par laquelle il faut que l'encens coule pour irriguer tout le corps. Si l'artère est obstruée, le corps tout entier meurt. Pour l'Église, les misérables sont l'artère et la dégager est une question de vie ou de mort. Si la grâce passe par eux, tout le corps est irrigué. Donc cette image de l'artère dit bien comment la présence des pauvres donne vie à l'Église. Et pourquoi l'Église est-elle vivante? C'est parce que par la prière des pauvres, elle est reliée à Dieu. Et le Père Joseph a en particulier exprimé à propos de la prière d'un homme du camp de Noisy-le-Grand qui venait de perdre son beau-frère noyé. Et il va utiliser une métaphore voisine qui est celle du canal. Il va dire qu'il priait dans sa misère noire, que cet homme qui priait dans sa misère noire était le lien, le canal, il renouait l'ensemble de l'Église à Dieu. La prière des pauvres est libératrice. Et l'Église des pauvres est une Église où les pauvres peuvent proclamer dans leur prière, dans leur choix, leur foi, une foi qui est indestructible par-delà la misère. Et l'Église est encore vivante par les pauvres, par l'amour qui se diffuse à travers eux. Et le Père Joseph va dire que Jésus a voulu, grâce aux pauvres, créer la contagion de l'amour, car l'amour fait l'impasse sur ce qui entrave, bloque, empêche l'essentiel. Donc c'est dans cette perspective, à partir de cette citation de « Les pauvres sont l'Église », qu'il me semble qu'on peut penser le circuit évangélisateur comme une contagion de l'amour. Je voudrais maintenant m'arrêter sur un deuxième aspect de ce circuit évangélisateur, le considérer aussi comme un circuit libérateur. Parce que le Père Joseph ne dissocie pas libération spirituelle et libération sociale. Pour lui, il ne peut y avoir d'authentique libération que par l'amour, et cette libération doit concerner tous les hommes, les riches comme les pauvres, comme nous l'avons vu. Et cette libération se réalise d'abord par l'évangélisation, il va le dire, dans « Les pauvres sont l'Église ». Libérer pour moi, c'est avant tout évangéliser les plus pauvres en les plaçant au centre de l'évangélisation du monde. Comment comprendre cette évangélisation des pauvres et son pouvoir transformant? Il va dire qu'elle révèle aux plus pauvres leur dignité d'enfants de Dieu. Il va s'interroger ainsi, je le cite, « Notre propre salut, celui de tous les hommes, ne dépend-il pas de ce que nous saurons faire pour reciter les plus pauvres dans leur filiation vis-à-vis de Dieu ?» Et la réponse qu'il donne à cette question me semble très éclairante. Évangéliser les plus pauvres, c'est pour lui découvrir avec eux comment la présence de Dieu se manifeste au jour le jour en eux, ses enfants privilégiés. On retrouve le vocabulaire de l'enfance. Donc la dynamique du circuit évangélisateur s'enracine dans la conviction, je le cite, que nous sommes tous du même sang, c'est-à-dire que nous sommes tous enfants de Dieu par une filiation d'amour, et donc chargés de la même mission. Cette mission est une mission commune de libération par la force de l'amour, et l'évangélisation des pauvres, dont la nécessité découle même de cette filiation partagée d'amour, se réalise dans un être avec, découvrir avec les plus pauvres la présence de Dieu dans leur vie. Et qu'est-ce que c'est que cette présence de Dieu? C'est une présence d'amour qui les ouvre au pardon, qui leur permet d'expérimenter la miséricorde. Et donc, je voudrais insister maintenant sur le deuxième point, la deuxième bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Tout d'abord, nous avons vu que la bonne nouvelle, qu'ils sont des enfants de Dieu, et que ça leur donne une dignité. Là, c'est la bonne nouvelle du pardon qui est annoncée. Le Père Joseph y revient à plusieurs reprises, car les pauvres ont pour lui un incommensurable besoin de pardon. Les pauvres, pas plus que les riches, n'échappent aux tentations, et ils y succombent aussi bien souvent. Mais il leur manque un horizon d'espérance à partir duquel se relever. Une offre de pardon qui les rende dignes d'aimer, de pratiquer la justice. Et aussi une prise de conscience des dépassements qu'ils sont capables de réaliser et qui peuvent les conduire vers Dieu. Donc l'annonce de la bonne nouvelle, c'est à la fois un dévoilement de la responsabilité de l'homme et une offre de pardon. Et le Père Joseph va ainsi synthétiser le message évangélique adressé aux premiers aux pauvres. Convertissez-vous, Dieu est amour et pardon. Le pardon accordé suscite la conversion. L'amour reçu, communiqué, encourage à la responsabilité. Je suis responsable de cet amour dont l'on m'a fait don. Un troisième aspect de la bonne nouvelle annoncée, c'est que la bonne nouvelle est que les pauvres sont eux-mêmes acteurs du salut. Et pour le Père Joseph, les pauvres ont une responsabilité particulière dans cette contagion de l'amour. Ils ont, dit-il, entre les mains les clés du royaume. Il s'agit de prendre en sérieux la béatitude des pauvres. Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Alors, comment passer ce dépassement, justement, cette participation des pauvres à l'évangélisation? Il me semble qu'il y a un passage d'un être avec, de partenaire, au fait que les pauvres deviennent guides. Évangéliser les pauvres, c'est les prendre pour guides. Demander qu'ils nous montrent le chemin. Ce chemin est un chemin d'humilité. Évangéliser les pauvres, c'est se laisser évangéliser par les pauvres en consentant à entrer dans un chemin d'humilité qui est le chemin qu'a emprunté le Christ lui-même pour évangéliser les pauvres. Il en a donné l'exemple et le Père Joseph le dit bien. Dépouiller, le Christ nous demande le dépouillement afin de rejoindre les plus pauvres et de nous mettre à leur école. Dans les pauvres rencontres du vrai Dieu, au titre évocateur, le Père Joseph identifie ce dépouillement au fait de ramasser les miettes de la table des pauvres. Il renverse ainsi la situation. Et quelles sont ces miettes? Il donne en exemple l'obol de la veuve du temps de Jésus ou une mère de famille qui ramasse des fruits avariés pour son enfant malade. Que signifie donc ramasser ces miettes? Il s'agit de s'émerveiller de leur beauté incomparable. Qui suis-je face à cette veuve qui a tout donné, tout ce qu'elle avait? Ces miettes sont ferments du royaume, elles contribuent à la libération de tous. Proclamer les pauvres bienheureux, c'est entrer soi-même dans la béatitude des pauvres. Prendre le pauvre pour partenaire et pour guide, c'est devenir ce qu'il est et plus encore se faire son serviteur et ainsi contribuer avec le pauvre à la construction de l'église des pauvres. Une église où le pauvre se voit, je cite le Père Joseph, révéler qu'il est l'appel du Seigneur, la réalité même de l'Église. Donc j'en viens maintenant à ma dernière partie, où je serai plus brève, le passage de comment on peut réfléchir à une parenté de réflexion entre le Père Joseph et le Pape François. D'abord, j'ai évoqué la question de la centralité de l'évangélisation des pauvres chez le Père Joseph et le Pape François, ce qui m'a interpellée, qui m'a suscité ce rapprochement. Ensuite, il y a aussi chez eux un lien entre libération spirituelle et libération sociale. On le voit en particulier dans le chapitre 4 de la joie de l'Évangile, sur lequel j'ai plus particulièrement à m'arrêter, et qui s'intitule « La dimension sociale de l'évangélisation », où il va parler justement de l'option pour les pauvres. J'ai réfléchi un peu à l'origine de cette parenté, et il me semble qu'il y a... On se situe dans le contexte de discussion autour de la théologie latino-américaine de la libération, et c'est d'ailleurs souvent ces occasions que le Père Joseph va parler de thèmes de l'évangélisation des pauvres et de l'Église des pauvres. Le Père Joseph, comme le Pape François, vont penser une théologie qui part de la personne concrète et appelle un partenariat, selon l'expérience de Père Joseph, où le Pape François va parler d'une proximité réelle et cordiale avec le pauvre. Au « être avec » du Père Joseph fait écho le verbe « accompagner » qu'on trouve fréquemment dans la bouche du Pape François. Le Pape va parler aussi de « servir l'autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences ». Et ça me semble faire écho au « ramasser les miettes de la table des pauvres » dont parle le Père Joseph. Ensuite, le circuit évangélisateur décrit par le Père Joseph est également présent dans l'option préférentielle pour les pauvres du Pape François, et me semble se fonder chez le Pape François dans sa pensée du sens de la foi, cette connaissance affective, amoureuse des réalités divines, qui trouve sa source dans la rencontre avec Jésus, qui est une rencontre d'amour. Et on me semble trouver aussi cette thématique chez le Père Joseph. Et je citerai ici « Heureux, vous les pauvres ». Ils, les plus pauvres, ont en raison même de leur misère l'intuition du dessein de Dieu comme le seul possible. Les plus pauvres font cesser nos critiques et nos raisonnements pour laisser la place au mystère de l'amour dont l'Évangile est la plus parfaite histoire vivante, se déroulant telle qu'elle, aujourd'hui comme hier. Cette proximité avec Dieu vient, on le voit bien, dans ce passage de leur condition même de misère, et on le retrouve chez le pape François quand il parle des pauvres qui ont une expertise enseignante, parce que par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souverain. Le père Joseph, de son côté, écrit « Nous ne pouvons pas mener une saine réflexion dans l'Église sans nous servir de ce que les plus pauvres nous ont dit sur l'homme humilié, sur le Christ crucifié. Plus le message est élémentaire, plus il est chargé d'expériences de vie, et plus il est indispensable aussi à l'Église. » Cette phrase nous fait bien comprendre combien il est nécessaire que les pauvres, avec leurs prières, soient au centre de l'Église. Et il me semble aussi qu'il a, on peut trouver aussi un rapprochement avec le pape François, ce qu'il dit de la piété populaire et ce que dit le père Joseph de la centralité de la prière des pauvres. Cette prière des pauvres a une force évangélisatrice. Autre point de rapprochement, le rapprochement entre évangélisation des pauvres et conversion de l'Église, qu'on voit bien, à la fois chez le pape François et le père Joseph. Un dernier point, mais je ne vais pas être exhaustive dans les rapprochements possibles. Je veux seulement évoquer quelques traits saillants. La question du plus, de la priorité aux plus pauvres, dont on a vu l'importance ce matin, ce plus. Et relisant justement pour cette journée la joie de l'Évangile, je me suis aperçue que le pape François use aussi, assez souvent dans la joie de l'Évangile, de l'expression « plus pauvre » au pluriel et non pas au singulier. Il va parler même en une occasion de l'option préférentielle pour les plus pauvres. Et dans la perspective du pape François, le plus, me semble-t-il, est à comprendre dans la perspective de la dynamique de l'Église en sortie, qui est, je le cite, une dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer, toujours de nouveau, toujours plus loin. La sortie de l'Église vers les périphéries existentielles vise à replacer les pauvres au centre. Comme le dit le pape Père Joseph, évangéliser les plus démunis, ce n'est pas s'enfermer avec eux là où ils sont, c'est leur rendre leur place au cœur de l'Évangile et donc au cœur de l'Église. Je vous remercie.